Eh bien, bonjour à tout le monde et bonjour à tous les frères en Afrique, en France, en Belgique et aux endroits que Dieu vous appelle. Je parlais tantôt à quelques-uns pour donner des nouvelles de Québec un petit peu. Nous aurons la fête des expiations à Québec. C'est quand même un soulagement pour certains qui voyageaient le 2h30 aller, 2h30 revenir, alors qu'on a l'estomac vide, entre autres. C'est quand même une belle bénédiction pour nous. Par contre, pour la fête des trompettes, on sera tous ensemble parce qu'on a entendu dire qu'il y aura un repas copieux. Alors, on s'en vient. Mais moi, je reste à Napierville. De toute façon, j'y serai. Le titre du message est celui-ci. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Un chrétien était devant une assemblée assez récemment, j'ai entendu parler de ça, qu'il posait la question parce que peut-être il y avait, je ne sais pas exactement pourquoi il était inspiré par cette question-là, poussé à cette question-là, il a demandé sur un ton très positif, « Êtes-vous content, heureux d'être dans les temps de la fin? » La plupart des gens, à cause du ton enthousiaste, ils ont dit « Oui! » Mais c'est d'autres, je pense qu'on devrait temporiser ça un peu avec une remarque, peut-être une personne qui n'avait pas autant de distinction, mais dans le monde des artistes, je crois que c'est Claude Dubois, peu importe qu'on l'aime ou pas, qui lui a dit, lorsqu'on lui a posé la question, « Êtes-vous heureux, Claude? » Il a dit, « Je suis satisfait, mais comment puis-je être heureux en voyant tous les gens qui souffrent dans le monde et qui sont les victimes de violences atroces? » Et le chrétien, lui, et nous, les enfants de Dieu, quelle devrait être notre position en cela? Laissez-moi vous citer l'Évangile d'après Luc, chapitre 19, verset 41. Je vais le citer pour vous. C'est l'Évangile d'après Luc, chapitre 19, verset 41. Parce que Jésus-Christ, comme vous le savez, était non seulement l'apôtre, comme l'a dit l'auteur aux Hébreux, non seulement était destiné à devenir notre souverain, sacrificateur, mais il était le prophète des prophètes. Et il savait ce qui allait arriver à sa ville chérie, Jérusalem. Et en voyant l'avenir, voyez l'attitude qu'il avait dans l'Évangile d'après Luc, chapitre 19. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. En voyant ce qui allait venir, pleura sur Jérusalem. Et je pense que de plus que nous passons d'années dans la croissance chrétienne, le plus nous devrions comprendre pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Cette fois-ci, on va se reporter à une parole de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 18. Dans mes années de jeunesse chrétienne, j'ai passé sur ce verset, mais je ne m'y suis pas arrêté. Mais avec les années, je pense que ce verset-là devient de plus en plus vivant à mon esprit et compréhensible surtout. Ecclésiaste 1, verset 18. Regardez ce qu'un sage dit. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science ou sa connaissance augmente sa douleur. Une autre approche, hein? Mettons ça avec ce que l'apôtre Pierre nous dit. On ne s'y reportera pas, mais je vais tirer les extraits nécessaires de la deuxième lettre de Pierre. Alors, on est à la fin du ministère de Pierre, l'apôtre. Il écrit une deuxième lettre et au chapitre 3, il dit que son but, entre autres, est d'éveiller par des avertissements notre saine intelligence vis-à-vis quoi? Si on lit jusqu'au verset 3, le contexte c'est pour les événements des temps de la fin. Alors, on pourrait dire l'enfant de Dieu est pris dans un dilemme qu'il doit être éveillé à ce qui s'en vient, puis en même temps, selon ce qu'on comprend des Écritures, ça nous fait de la peine, ça nous accable parfois. Si on voit les conséquences du déroulement des prophéties. Et aujourd'hui, on sait que l'Église de Dieu, une de ses forces depuis, je dirais, 70 ans, a été d'essayer d'éveiller la saine intelligence des gens par des avertissements concernant les choses des derniers jours. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus parle dans Marc 13, c'est ce verset, au fond, qu'on va développer. Et surtout, on va le rendre en relation avec d'autres versets que Jésus aussi, ou certaines paroles que Jésus a dites, ou certaines choses qu'il a faites vis-à-vis le figuier. Notre mot-clé, autrement dit, c'est « figuier ». Marc 13, verset 28. La bonne nouvelle de Marc 13, verset 26. On est dans le contexte quand Jésus parle, justement, des temps de la fin. Et voici ce qu'il déclare. On y reviendra ensuite pour voir plus de choses qui nous concernent. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. C'est une parabole, c'est une intrigue. En quoi on peut être instruit par ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de profond dans cette parole-là? Elle doit nous instruire, et on va s'instruire davantage aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais que nous comprenions donc davantage l'instruction que nous pouvons tirer de cette comparaison, et pour cela, j'aimerais rapprocher l'utilisation du mot « figuier » aussi de deux endroits principaux où Jésus fait référence à cet arbre à fruits. Donc, on va voir trois utilisations. On va voir, je l'espère, comment elles s'imbriquent l'une dans l'autre pour qu'on puisse s'en instruire. Jésus a donné un premier enseignement en utilisant une parabole aussi, du figuier, mais c'est dans l'Évangile d'après Luc 13, à partir du verset 6. On la connaît, la plupart d'entre nous, et on va commencer à cheminer dans cette instruction. Donc, d'après Luc 13, verset 6. C'est l'Évangile d'après Luc 13, verset 6. Il disait aussi cette parabole, donc il a déjà parlé du figuier. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Ah, oh, c'est intéressant, ça. Est-ce qu'on se souvient du symbolisme hein, du millénium, qu'est-ce que c'est, entre autres, ou de la paix, c'est quand quelqu'un peut entrer dans sa vigne et être assis sous son figuier. Symbole, bien sûr, de bien-être, d'abondance, de paix pour Israël. Mais cette fois-ci, il vient y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors cet homme-là dit au vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc, pourquoi occuperait-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore 7 années, le temps que je creuse tout autour et que j'y mette du figuier. Peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Il enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. La plupart d'entre nous, on a compris ici que c'est fortement, probablement que Jésus est en train de donner une image que on doit, après un certain temps, produire du fruit. Et que si on n'en produit pas, ben, le vigneron, hein, Jésus-Christ, va faire des efforts pour nous entourer de soins et éventuellement, si ça ne fonctionne pas, bon, ben, c'est peut-être pas qu'on n'a peut-être pas vraiment le fruit de la repentance. On n'a peut-être pas vraiment compris. Ça, c'est sur une base individuelle. Mais ici, vous allez voir que Jésus-Christ, oui, toute écriture est d'abord sur une base individuelle, mais il parle du figuier, pas sur une base strictement individuelle. Le figuier symbolise quelque chose. Et l'utilisation du 3 ans, il y en a plusieurs exégètes, vous êtes d'accord avec moi, si vous avez lu un petit peu là-dessus, ils ont dit, il faisait allusion que le figuier, c'était, entre autres, la direction d'Israël, sa ville, c'était son pays, que s'il ne produisait pas des fruits après le ministère de 3 ans et demi de Jésus-Christ, qu'éventuellement, il y aurait des conséquences, c'est qu'il devait être coupé. Bon, et je crois que le contexte justifie cette explication-là. Je ne crois pas que ça soit une simple coïncidence que Luc, après ça, va nous donner un fait de ce que Jésus a fait, justement, et de l'ambiance qu'il a vécu. Alors, qu'est-ce que Luc va insérer? On s'y reportera pas, mais vous pourrez les lire, les versets suivants, 11 à 16. Vous allez voir que ce qui se passe, c'est qu'il y a une femme qui est infirme depuis 18 ans. Elle est là dans la synagogue et Jésus-Christ décide de la guérir. Et le responsable de la synagogue, on pourrait dire le dirigeant, va reprocher indirectement, parce qu'il n'osera pas le dire à Jésus, il va reprocher aux gens de vouloir se faire guérir le jour du sabbat en disant, vous pourriez venir les 6 autres journées, mais abstenez-vous de vous faire guérir le jour du sabbat. Et quelle est la réaction de Jésus-Christ? C'est hypocrite. Hypocrite. Qu'est-ce que tu cherches à faire ici? Et il est en train, comme vous, je pense, vous le devinez, en train de dénoncer une mauvaise attitude vis-à-vis le plan de Dieu, vis-à-vis la loi de Dieu, vis-à-vis le fait qu'on ne doit pas se faire guérir le jour du sabbat. Alors que Jésus-Christ dit, cette femme qui est infirme depuis 18 ans, c'était le meilleur jour, là je verbalise personnellement, le meilleur jour pour se faire guérir parce que il faut comprendre le sens du sabbat qui est un jour de réjouissance, un jour où on fait le plaisir de Dieu. Et comment peut-on faire le plaisir de Dieu quand on est croche physiquement, quand on souffre? OK, ça c'est la leçon. Et peut-être vous ne le saviez pas, mais si vous faisiez un petit peu de recherche dans l'historien Joseph, qui est un juif, qui travaillait, pour les Romains lorsque Jérusalem a été encerclé par les Romains environ 40 ans après que Jésus a donné cette parabole. Cet historien va préciser dans un long récit comment la ville de Jérusalem était gérée lorsque les Romains l'encerclaient. Elle était gérée, entre autres, par les pharisiens et comment les pharisiens se sont comportés vis-à-vis leurs propres concitoyens dans ces temps difficiles. Ils escroquaient, ils oppressaient le peuple et ça a causé vraiment encore plus de chicanes internes. Ça a divisé la défense juive au point que c'était une question de temps avant que tout s'écroule. Okay? Ça, c'est ce qu'on peut retirer de la première parabole du figuier. Regardons maintenant la deuxième fois que Jésus mentionne le mot « figuier ». Et cette fois-ci, c'est qu'il va s'adresser directement à un figuier alors qu'il est sur la route. Et on est à la fin du ministère de Jésus-Christ. On est à ce moment-là, quelques jours avant qu'il soit arrêté et finalement exécuté. Et deux auteurs vont en parler. Il s'agit de Matthieu et de Marc. L'évangile qu'on va lire, c'est dans celui de Marc, au chapitre 11, à partir du verset 13. Et si vous voulez prendre note, vous pouvez voir le récit parallèle et essayer de réconcilier les deux récits. Ça, c'est un exercice tout à fait intéressant pour nous, les enfants de Dieu, quand on pense qu'on connaît bien la parole de Dieu. Mettez les évangiles en parallèle, puis essayez de comprendre les différences et pourquoi il y a des différences. Pourquoi même des fois il y a des inversions. Et ça nous stimule à essayer d'aller un petit peu plus profondément dans la pensée et on pourrait dire dans la façon que Dieu nous enseigne. Mais là, nous sommes dans l'Évangile d'après Marc, à partir du verset 11, du chapitre 11, pardon, verset 13. Apercevant de loin un figuier, donc Jésus chemine sur la route, il voit de loin un figuier qui avait des figues. On est probablement donc au mois de mars, OK? Ben, en fait, on est peut-être au dernier mois de l'année, dans le calendrier juif, la 12e lune ou 13e lune, selon l'année. Et on s'en va vers le mois de Abib, et c'est quand même là que les feuilles reprennent avec vigueur en Palestine. Il alla voir, en s'approchant, s'il y trouverait quelque chose. Mais en y arrivant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi, et ses disciples l'entendirent. Je ne sais pas si en lisant le récit de Marc, ce petit commentaire qu'il fait, car ce n'était pas la saison des figues, n'est pas dans Matthieu. Mais Marc a cru bon de l'insérer en disant, voici un indice qui doit vous faire réfléchir. OK? Alors, il y a eu un questionnement en disant, mais oui, mais si ce n'était pas la saison des figues, pourquoi Jésus s'approche alors que, puis Satan voit des figues alors que c'est pas la saison des figues? Ben, c'est là qu'on se rend compte que nous, on est habitués avec des pommiers ou des pruniers. Parce que le figuier ne fonctionne pas comme tous les autres arbres à fruits. Il donne des fruits toute l'année. Un petit peu, mais à la saison finale, là, il en produit abondamment. Alors, ce serait un peu comme si nos pommes venaient, il y aurait quelques pommes au fur et à mesure, et que finalement, on a la grosse récolte quand même du principal. Ça, c'est le figuier. Alors, je cite ici le commentaire Bost, que vous pouvez, par exemple, avoir, auquel vous pouvez avoir accès sur la Bible online. Vous pouvez l'avoir aussi accès ailleurs. Il dit ceci. « Pourquoi est-ce que Jésus maudit le figuier, puisque ce n'était pas la saison des figues? » Il dit, « Pour tout autre arbre que celui dont il s'agit, la réponse serait difficile. Mais pour le figuier qui doit porter, comme nous l'avons dit, des fruits presque toute l'année, soit hâtif, soit tardif, on comprend que Jésus a dû s'étonner de ne trouver aucune figue. Lorsque, du reste, l'arbre bien garni de feuilles paraissait fort et vigoureux. Il aurait pu arriver cependant que l'arbre ait été dépouillé de ses fruits si ça avait été la saison des figues. C'est autrement dit, si on avait été genre au mois de septembre, là, il aurait pu dire, ah, ils ont toutes pris. Parce que là, ils auraient toutes récoltées. Comme les pommiers, hein, on arrive, on vide l'arbre. OK? Mais, Marc dit, mais vu que c'était pas la saison des figues, c'est pour ça que Jésus-Christ a été pris par surprise de ne pas en trouver. Il continue à ce moment-là, il dit, « Le Seigneur considère donc cet arbre comme jetant toute sa sève et sa force dans un extérieur inutile, et il le retranche, voulant signifier par là qu'il en ferait de même de tous ceux chez qui, cherchant les fruits de la vraie repentance, il ne les trouverait pas. » Alors, lui va mettre l'accent encore sur la leçon personnelle qu'on peut tirer de cet épisode que Jésus a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits. Alors, le récit de Marc continue au verset 15. OK? Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Après quoi a-t-il fait ce geste significatif de nettoyer le temple après avoir maudit le figuier? Après avoir maudit le figuier, il va faire une démonstration. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la leçon, pas pour une personne, pour une nation et pour une classe dirigeante. Il ne laissait, est-il dit au verset 16, personne transporter un objet à travers le temple. Il les instruisait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de bandits. N'oubliez pas que Jésus est prophète, que Jésus est juge. Oui, Jésus est souverain sacrificateur. Oui, Jésus est futur roi, mais ici, présentement, il est en train de faire la fonction de façon prophétique de qu'est-ce que ce sera quand il sera en charge du jugement. Okay? Et Marc va insérer cet événement de l'intervention de Jésus au temple après donc ces paroles de malédiction du figuier. Et encore une fois, on est dans un contexte où Jésus-Christ fait la démonstration qu'il va juger son peuple. Continuons le récit au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Là, je suis dans la traduction la Nouvelle Bible Second. En anglais, c'est dit exactement desséché à partir des racines. Et c'est là qu'un frère est venu me voir en disant le texte de Matthieu dit que il a desséché tout de suite quand Jésus-Christ a parlé. Et Marc ajoute que c'est seulement le lendemain qui s'en sont rendus compte. Alors, où est la contradiction? Il n'y en a aucune. Parce que quand un figuier dessèche depuis les racines, ça doit commencer dans les racines, puis finalement, ça se manifeste dans les figues. Alors, la parole de Christ a touché aux racines du figuier, et le résultat s'est fait sentir, s'est fait voir le lendemain. Okay? Il faut comprendre qu'en mettant les textes ensemble, il n'y a pas de contradiction. Alors, verset 21... Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Alors là, c'est là que je vais faire l'hypothèse et on va la rattacher finalement à la troisième personne. Permettez-moi de suggérer que cet épisode du figuier desséché était un signal que Christ lançait pour annoncer le dessèchement de sa propre nation. D'ailleurs, les détails de la destruction de Jérusalem et de la captivité de ses proches suivront quelques jours plus tard. Mais avant d'aller là, voyons un petit peu aussi le verset 22 et 23, parce que ça nous aide à comprendre que dans ce contexte-là, pourquoi ensuite il va dire ceci comme remarque à la question « Wow, le figuier a desséché, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ?» Jésus dit « Ayez la foi en Dieu ». Moi, ça m'a toujours un petit peu mis mal à l'aise, ça. En quoi, moi, je pourrais me pratiquer à me promener parmi les arbres, puis commencer à maudire des pommiers, juste pour voir, là, pour voir si ça peut m'aider à avoir de la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je voyais pas trop de rapport. Mais quand c'est dans un contexte, où Jésus-Christ, la parole incarnée, le prophète des prophètes, le visionnaire des visionnaires, est dans une époque où il donne des leçons et qu'il dit de s'instruire par ces leçons-là pour des événements nationaux ou d'importance grande, je pense qu'on voit qu'on a c'est important d'avoir la foi. Parce que si on n'a pas la foi, on ne pourra pas traverser les périodes difficiles qui nous attendent. Et on ne pourra pas vraiment comprendre les événements. Regardez maintenant ce qu'il va nous dire au verset 23. La leçon est la suivante aussi. Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Mais là, vous dites, oh, j'ai vraiment pas cette foi. J'essaie de dire à une montagne de se jeter dans la mer. J'ai essayé de demander au Mont-Royal, puis j'ai pratiqué, je dis, jette-toi dans le fleuve. J'ai adapté mon affaire, puis ça n'a pas bougé. Ça m'inquiète, parce que j'ai beau m'efforcer d'avoir de la foi, je ne l'ai pas. Fait que là, on va diminuer un petit peu l'importance de la parole. On va dire, ben la montagne, c'est n'importe quoi, c'est des obstacles, c'est des difficultés. Mais pourtant, on sait très bien que le symbole de la montagne, c'est bien plus gros que ça. C'est une nation. C'est un empire, une montagne. C'est quelque chose de gros. Et qui est celui qui dit à la montagne de se jeter dans la mer? On va voir un petit exemple de quelqu'un qui a dit à une montagne de se jeter dans la mer. Parce que c'est une leçon pour nous que Jésus-Christ est en train de révéler que nous sommes les disciples de quelqu'un qui sait où il s'en va dans la prophétie, qui est capable d'accomplir ses propres paroles prophétiques et qui va le faire dans un certain ordre. Et c'est pour ça aussi qu'on va aboutir dans la troisième partie qui est « Instruisez-vous ». Mais voyons un petit peu maintenant un passage, on pourrait dire, qu'on peut rapprocher du verset 23 de Marc. C'est dans l'Apocalypse 18, juste pour faire un petit exercice de rapprochement des Écritures. Souvenez-vous, Jésus-Christ vient de rentrer dans le temple. Il nettoie le temple. Il dit, « Mon intention est de faire de cette maison une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de bandits. » C'est-tu important ce qui se faisait là? Et si on prend ça du côté spirituel, est-ce qu'il n'y a pas toujours un danger dans notre pensée d'Église, des fois, de transformer l'Église en un centre de profit et de, tu sais, d'essayer de voir, écoutez, c'est clairement dans la chrétienté un problème qui s'est passé à travers les siècles. On a pris le nom de Dieu, les gens qui étaient des gens sincères ont essayé de bâtir le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu dans leur compréhension, et d'autres, les dirigeants, en ont profité pour se mettre de l'argent dans les poches, n'est-ce pas? Écoutez, c'est un phénomène qui appartient pas juste à l'Israël ancien. C'est un phénomène national et, je dirais, international. Après avoir parlé de ça, il donne qu'on peut quand même jeter une montagne dans la mer. Regardons Apocalypse 18, versets 1 et 2. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, très important ici, qu'il ait cette grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. » On peut se poser la question, de quel messager il s'agit ici qui a cette grande autorité dont la terre, la planète, est éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Alors ici, dans l'Apocalypse, on sait que Babylone, ça représente le système à la fois politique, économique, ici c'est plutôt économique l'aspect du chapitre 18, et aussi religieux, hein, qui, dans les temps de la fin, en tout cas, va ressurgir avec une puissance et, on pourrait dire, une unanimité, on pourrait dire, la plupart des êtres humains sur la planète. Voyons maintenant ce parallèle confirmé plus loin, toujours dans le chapitre 18, au verset 21. Regardez le langage. Alors, un ange puissant, après que le premier a fait une déclaration, un ange puissant, prit une pierre, il va faire la démonstration par un symbole, par un signe. Prit une pierre semblable à une grande meule et regardez, il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » On sait que la ville est même symbole d'un royaume. Hein, Babylone, c'est le symbole d'un empire aussi. Et remarquez que celui qui dit autrement dit, ici, à la montagne ou à la ville, ôte-toi et jette-toi dans la mer, ben c'est un ange puissant. On est dans un autre registre quand on comprend quand Jésus parle. Oui, il est important que nous devons développer la foi, mais c'est toujours dans un contexte, on pourrait dire, très, très important de l'ensemble de la planète, de l'ensemble des événements, de l'ensemble de ce qui attend le chrétien des temps de la fin, parce qu'on est dans le contexte des temps de la fin. Comme Jésus-Christ est dans le contexte de son temps de la fin, avant de mourir dans les derniers jours, et qui essaie de nous avertir que ce qu'il vit, c'est ce que nous allons vivre dans un sens, ben nous avons des leçons à tirer de ça. OK? Je pense que ça va devenir clair avec le troisième élément, c'est celui dont Jésus-Christ dit « Instruisez-vous ». C'est dans Marc 13, on l'a vu tantôt, mais on va voir le contexte cette fois-ci à partir du verset 2. OK? Marc 13, verset 2. Regardez bien ce que la troisième fois qu'il va parler du figuier, tout ça s'est interconnecté. La première fois, il lance un message en disant, on va lui donner encore un an, sinon après ça, on va le couper. La deuxième fois, c'est qu'il donne la démonstration qu'il peut, par sa simple parole, faire sécher comme ça un figuier, que ça a pris à peine 24 heures pour en voir les effets. Et la troisième fois, voici ce qu'il dit d'abord, concernant Jérusalem, il dit, « Vois-tu ces grandes constructions, verset 2, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et on connaît aussi tout le reste. On va lire quand même le verset 3 et 4. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. » Jésus-Christ est en train de choisir et de démontrer pourquoi il va être le juge de Jérusalem à son époque et pourquoi il va être le juge du monde à son retour. Et pour le faire, il s'assoit sur la montagne des Oliviers. Et s'asseoir, dans le langage biblique, c'est souvent aussi s'asseoir pour régner, s'asseoir pour juger. Et il s'assit où? Sur le mont des Oliviers, face, c'est bien dit, du temple, face au temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront que toutes ces choses vont s'accomplir? » Vous savez, comme j'ai dit tantôt, on a publié beaucoup là-dessus. Mais la question est, aimeriez-vous connaître le repère parmi tous les repères que Jésus a donné pour savoir que nous sommes dans ces temps de la fin-là? On pourrait dire dans les dernières heures du temps de la fin. Allons au verset 26. D'abord, il donne le signe principal du retour de Christ. C'est quoi? Pas le point de repère qu'il annonce, mais le signe principal du retour de Christ. C'est quoi? On verra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. C'est le retour du Christ. Visible. Ça, c'est le signe. Si vous voulez savoir qu'est-ce que le monde va voir, quand Jésus-Christ va apparaître, d'une façon, je ne sais pas comment ça va se faire, là, mais tout le monde va le voir venir. Ça, c'est le signe final, c'est le dernier signe. Là. Le plus grand, le plus beau, le plus fort. C'est pas les tremblements de terre, c'est pas ça. Ce sont tous d'autres signes. Mais le signe des signes, c'est celui-là. Mais le point de repère, il y en a un aussi. OK? Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Mettez ça avec Matthieu 24, vous allez voir. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. On va fêter ça bientôt. Lundi, instruisez-vous, c'est là qu'il arrive en disant, par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 29, demain. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et quelle est la dernière chose que mentionnée qui va arriver? Le figuier. Le figuier. Regardez le figuier. Après avoir annoncé, je résume, en premier lieu que le figuier serait arraché, après avoir fait en deuxième lieu une démonstration faisant sécher le figuier depuis ses racines, il revient avec le figuier en disant, « Regardez, il va pousser. » Le texte parallèle selon Luc, vous pouvez en prendre note, c'est chapitre 21, verset 29, dans la nouvelle traduction seconde, c'est un mot particulier que Luc utilise, il va utiliser le mot « bourgeonner ». J'ai fait une étude un peu sur ce mot-là, et j'ai remarqué que c'est un mot rare. C'est un mot rare qui est utilisé seulement deux fois. un dans son sens pour les hommes, puis un dans son sens pour un arbre. Alors, le côté pour les hommes, ça aide pas à comprendre ici le mot. J'ai été voir du côté grec de la traduction par les Juifs de l'Ancien Testament, les écrits avant Jésus-Christ. Il y a quelques utilisations, mais aucun concerne un arbre. Alors, c'est là que, seulement à ce moment-là, que c'est un dictionnaire grec-français classique qui m'a aidé. C'est faut dire qu'il est récent. C'est le dictionnaire français de Victor Magnin et de Maurice Lacroix. Ça a été publié aux éditions Belin en 2002. Et là, il va donner un éclat un peu plus grand sur le mot. Le dictionnaire nous dit qu'au mode actif, et c'est le cas ici, le verbe grec, qui est proballo, signifie « lancer en avant », produire des fruits, exhaler une odeur. Et vous allez voir que Peter Eddington, dans la revue Bonne Nouvelle, qui est maintenant appelée Pour l'avenir, hein, on fait une transition, a écrit un article qui a pour titre « 7 points de repère prophétiques du temps de la fin ». Ça a été publié l'année passée, le 2 janvier, l'autre année avant, en 2018. Cet article est disponible sur le site des publications. Vous pouvez même le télécharger. Monsieur Dington indique que dans la Bible anglaise, j'ai vérifié, c'est vrai, le mot « pousser » est plus justement traduit par « fleurir ». Ça aussi, ça aide, parce que les mots, c'est important. N'est-ce pas un fait historique, frères et sœurs, que l'État d'Israël a fleuri au Moyen-Orient? Les Israéliens ont célébré leur 71e anniversaire de fondation depuis, je pense, c'est le 14 mai 1948, lorsque les Nations unies ont autorisé, par une déclaration, le retour des Juifs dans dans une terre auquel ils avaient droit, après, je pense, 1900 ans, un petit peu moins que 1900 ans, d'errance. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on sait que la Deuxième Guerre mondiale a failli exterminer le peuple juif, du moins tout le peuple juif qui était en Europe, en Pologne, que ce soit en Tchécoslovaquie, que ce soit dans les pays que Hitler avait conquis en France. 6 millions ont été détruits en peut-être un an et demi. 6 millions, presque dans le secret. Vous savez, notre génération peut en témoigner la véracité. Le figuier a-t-il repris vie? Le figuier voit la sève couler depuis ses racines jusque dans son feuillage, ses fleurs et ses fruits. N'est-ce pas un fait historique qui se répète aussi que ce même figuier attire l'envie, la jalousie, la fureur des nations? Regardons Zacharie 12 à partir du verset 1. Une bonne étude à faire pour les prophéties des temps de la fin, c'est Zacharie 12, 13 et 14. Il y a plusieurs éléments prophétiques qui deviendront de l'histoire dans quelques années qui sont écrits dans ces livres, dans ces chapitres, pardon, de ce livre de Zacharie. Mais dans le chapitre 12, à partir du verset 1, juste pour donner l'ambiance, dans les cinq, c'est-à-dire dans ce chapitre, on va rencontrer l'expression « en ce jour-là », 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 jusqu'à 15 fois, jusqu'au chapitre 14. Et regardons le commencement du chapitre 12 de Zacharie à partir du verset 1. Et c'est assez intéressant comment les mots sont placés dans un certain ordre. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Bon, nous, quand on entend le mot Israël, on n'est pas comme la plupart des gens aujourd'hui, on ne dit pas « Ah, c'est l'État d'Israël ». Non, on sait que c'est probablement les 12 tribus d'Israël. OK? Vous avez raison. Mais quand même, le mot sort. Et le mot, pourquoi Dieu a-t-il permis que l'État d'Israël s'appelle Israël, d'après vous? Si ce n'est que parce que c'est à peu près le seul élément visible qui reste, qu'on peut identifier comme peuple de Dieu physique. Parce qu'on ne peut pas trop compter sur les 10 tribus perdues, parce que ça n'est pas encore tout à fait retrouvé. Je veux dire, dans la plupart des gens. Les gens ne se sont pas retrouvés. OK? Mais Israël, qui est bien sûr le restant de Juda, lui, malgré ses hauts et ses bas, a gardé son identité. Bon, ça va. Mais regardez qu'on va préciser tout de suite, encore une fois, dans la prophétie, vers qui on focus. Ainsi parle l'Éternel qui a entendu les cieux et fondé la terre. Donc, on a affaire au Créateur. Et aussi, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est intéressant, il insère ça en ce moment-là. Instruisez-vous. Et ça se fait par l'esprit. D'abord, notre esprit qu'on exerce, mais l'esprit éclairé par l'esprit de Dieu. Voici, je ferai de Jérusalem. Boum, il va tout de suite au but. Une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Il va préciser, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Wow! Ça va recommencer. Un autre siège de Jérusalem. Là, on est dans ce jour-là. On est dans ce jour-là. Même pas dans ces jours-là. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, parce que eux vont la soulever pour l'acheter à la mer. Ils veulent l'acheter à la mer. C'est drôle, hein? Dans un sens, ils veulent appliquer à l'envers hein, ce que Jésus-Christ a dit qui allait arriver. Dieu dit, on va jeter une montagne dans la mer, puis il précise dans l'Apocalypse que ce sera Babylone. Mais qui veut jeter Israël à la mer? Il y a des nations autour. Ils l'ont écrit, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé. Intéressant, hein? Ils veulent la soulever, mais ils vont être meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. S'il y a quelque chose qui va faire l'unanimité à un moment donné, c'est qu'il faut ça, il faut vraiment remplacer ce qui se passe là-bas par la sanité, hein? Vous savez, lorsque les nations maudissent les descendants allégués d'Abraham, elles s'attirent la malédiction. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu a donné sa parole là-dessus. Et il le fait sur une base personnelle avec son ami personnel qui avait le nom Abraham. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on fait alliance, toi puis moi. Je m'engage. Et voici à quoi je m'engage. Chapitre 12 de Genèse. On reviendra, gardez votre place dans Marc, OK? Là, vous l'avez peut-être perdu. Enfin, c'est pas grave. En fait, vous l'avez perdu la place, mais Marc est toujours dans votre Bible. Ça, je peux vous rassurer là-dessus. Mais Genèse 12, verset 3. Vous savez, c'est une chose de souligner les manquements d'une personne, d'un peuple ou d'une nation. C'en est une autre de dénigrer, de mépriser, de soupçonner, de dire du mal et de maudire. Et parfois, certains d'entre nous, on n'a pas toujours les deux côtés de la médaille. Ne croyez pas nécessairement que les nouvelles qui sont données au Canada donnent toujours les deux côtés de la médaille. Pas plus aux États-Unis, n'est-ce pas? Quoique aux États-Unis, il y a au moins une petite influence qui fait que ça serait bon, parce que si vous voulez qu'on continue à fonctionner, surtout l'État de New York, où il y a quand même plusieurs Juifs là-bas, ils essaient au moins de faire en sorte que, bien, donnez au moins les deux points de vue, s'il vous plaît. Regardons ensemble, donc, Genèse 12. « Je bénirai, c'est Dieu qui parle à Abraham, ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Mais regardez comment ça finit. Regardez comment ça finit, le verset. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça finit bien. Vous savez, le projet de Dieu va se réaliser un jour. On est, nous, justement, dans cette compréhension partielle, il faut quand même le dire, de ce grand plan qui avance. Pourquoi ça va s'accomplir? Parce que Dieu l'a dit. Aussi simple que ça. Et Jésus-Christ l'a prophétisé, et à ce moment-là, ça va s'accomplir aussi en lui. La semence promise à Abraham, quand il dit « en toi », c'est en toi, puis en ta semence surtout. Maintenant, comment Jésus-Christ, quel est un des titres que Jésus-Christ a? Il y en a plusieurs. Il est souverain sacrificateur. Hein? Il est prophète, il est l'apôtre. Un titre un peu étrange, il porte le nom de lion. Mais lion de quoi? Apocalypse 5:5 nous révèle un aspect important de Jésus-Christ. On est dans un contexte, encore une fois, prophétique, tellement touchant que l'apôtre Jean est en vision. Il voit l'agneau, entre autres, qui est sacrifié. Il voit un livre qui a sept sceaux. Et là, il sent que c'est des prophéties, puis il sent qu'il y a des clés là-dedans pour l'avenir de l'humanité. Et il est comme enthousiaste, il est comme pris pour vouloir comprendre et savoir. Et tout d'un coup, on lui dit que personne n'a le droit d'ouvrir le livre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, bon, tant pis pour. Non, il a pris ça à cœur, il pleura. Si Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem, Jean a pleuré sur le fait qu'on ne pouvait pas comprendre les prophéties. Mais il était rassuré. Regardez au verset 5, l'un des vieillards, ça c'est un des quatre, c'est des êtres incroyables. Non, il y en a combien? Il y en a 24 vieillards. Un des 24 vieillards qui va s'approcher de lui. Je suis sûr qu'il n'a pas dit, « Bon, ben là, arrête de pleurer, là! » On a affaire à un des 24, je ne sais pas combien de milliers d'années qui existent. Et pourquoi c'est un des 24? C'est parce que je pense qu'il n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Il dit, « Ah non, pleure pas! » Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Seulement le lion de la tribu de Juda a le droit d'ouvrir les prophéties. Et ça veut dire que ça a tout rapport avec son identité. Son identité, ses origines. De quelle tribu il est important pour qu'on puisse comprendre la prophétie. En fait, je dirais, si on n'a pas cette connexion avec le lion de la tribu de Juda, on a très peu d'intérêt pour la prophétie. Parce qu'on n'a pas d'intérêt vraiment pour le cœur de la prophétie qui nous permet d'être comme à la fois sensible, pleurer sur ce qui s'en vient et en même temps avoir l'espoir que Dieu va intervenir et le sentir que cet espoir est en donné à nous. Vous savez, les nations vont être bénies grâce à celui qui a le titre « le lion de Juda ». Les nations seront bénies en et par son peuple physique, qui sont les Juifs. Ils le sont, en passant, les nations sont déjà bénies par le peuple juif. N'est-ce pas, vous êtes conscient que 80% des prix Nobel viennent d'un peuple qui représente 0,4% de la population mondiale. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Si ce n'est que Dieu a fait une promesse. Je bénirai ceux qui te béniront. Et aussi, il y a 10 d'autres promesses, bien sûr. On reviendra à cet aspect-là, c'est assez étonnant. Le monde entier va être béni aussi en et par les 12 tribus d'Israël, ils le sont déjà un peu, dirigés par les 12 apôtres dans le futur, et par l'ensemble de l'assemblée spirituelle qui est devenue l'épouse du Messie, c'est-à-dire nous. Je pense que le monde va être vraiment béni. Mais, en attendant, il y a la controverse. Vous savez, Salvatore Adamo. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Salvatore Adamo? Hein? Salvatore Adamo, c'est un Belge, avec un nom comme ça. Il chantait, lorsqu'il a visité la nation d'Israël, dans ses premiers soubresauts, c'est dans les années 60, une chanson qui a pour titre « Inch'Allah ». Dans cette chanson, il fait référence à l'Holocauste où quelques 6 millions de Juifs ont péri sous la politique d'extermination d'Hitler. Savez-vous comment elle s'appelait, cette politique-là? Son code, la solution finale. Atrocité. Outrancier. Calculé d'avance d'exterminer un peuple. Et Adamo va chanter pour souligner la résilience de ce peuple et l'ingéniosité de ses survivants, qui ont fait fleurir le désert qui était devenu la Terre Sainte. Je ne sais pas si vous saviez, mais en 1948, si vous visitiez, il y a des photos, vous pouvez aller voir sur l'Internet, si vous visitiez ce qui s'appelait la Palestine, en passant, ça c'était une insulte faite par les Romains, là, qui ont rebaptisé la Terre Sainte, la Palestine, c'est-à-dire terrain des Philistins, c'était pas très beau. En fait, il y avait des marécages, quand il y avait un peu d'eau, c'était des marécages, il y avait des maringouins, et les premiers colons, là, qui étaient même précurseurs avant même, qui ont inauguré officiellement, il y en a plusieurs qui sont morts en essayant de drainer ce qu'on appelle les marécages. Mais il y a aussi le désert, la partie tout à fait sèche. Okay? Alors, ils chantent « Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré un sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'arbres. » 1960. Lui savait que le figuier est en train de pousser. Il le voyait bourgeonner. Déjà, ça fait longtemps. Mais Dieu est patient. Dieu a un plan. Mais vous savez, les chanteurs, les poètes, eux-mêmes ont été éclaboussés par la guerre ou le conflit israélo-arabe. Savez-vous que les critiques se sont levées contre Adamo? Il a été interdit d'aller chanter, entre autres, au Liban. Alors, il a modifié la chanson. En passant, c'est Delano qui a écrit les paroles, mais il a réécrit le couplet, il l'a composé comme ceci, « Requiem pour les millions d'âmes de ces enfants, ces femmes, ces hommes, tombés des deux côtés du drame, assez de sang, shalom, shalom. » Ça veut dire que la paix soit du côté arabe, que la paix soit du côté aussi hébreu, israélien. Mais vous savez, pour nous, c'est des indices. Je cite Peter Dington qui nous rappelle dans l'article cité précédemment, il dit « Israël, l'État juif moderne, sera dans une situation particulièrement périlleuse. À l'heure actuelle, 2018, elle est menacée de tous côtés. À l'est, l'Iran bientôt armé de la force nucléaire. Au nord, la guerre chimique et biologique de la Syrie. Et de partout, des groupes terroristes. » Et là, ça se peut que ça aille mal au sud aussi. La Jordanie est en train de dire, si M. Netanyahou ou l'État d'Israël ne retire pas l'occupation du côté ouest, ça ira mal. Bon, ça ajoute. Tous ceux qui soulèveront la pierre vont être meurtris. Vous savez, Chantal et moi, on a eu un privilège d'aller à une conférence qui incluait des membres de la Knesset, des Premières Nations, entre autres les Cris, et aussi des familles juives. Alors, on a entendu le témoignage d'une des jeunes filles, toute la famille était là, qui expliquait que quelques semaines ou mois auparavant, avant son arrivée au Québec, comme touriste ou visiteur, elle est allée à la classe, mais sur l'heure du midi, elle est restée à l'école pour manger, mais sa copine est allée au centre d'achat. Et c'est là qu'il y a eu une explosion terroriste parmi combien d'autres. Et elle dit maintenant, lorsque le matin, moi puis mes parents, en route soit pour la classe ou soit pour le travail, on se dit au revoir et on s'embrasse, on sait que ça pourrait être la dernière fois. Je pense qu'on ne vit pas tout à fait ça ici au Québec. Hein? On peut être conscient qu'on peut mourir dans un accident de voiture. Mais on n'a pas cette conscience-là que si on pourrait sauter constamment. Je pense pas, hein? On ne vit pas leur réalité, mais Dieu dit, vous devriez la vivre spirituellement. Peter Dington explique dans son article, là, c'est à ce moment-là qu'après que Jésus a dit, instruisez-vous la leçon du figuier. Il dit, je cite Marc d'abord 13, verset 30, « Je vous le dis en vérité, cette génération, après avoir parlé du figuier qui refleurit, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront. » Et c'est après ça qu'au verset 33, il dit, « Prenez garde, veillez, priez. » Alors, il y a un élément que j'aimerais partager avec vous, c'est le psaume 122, parce que Jésus-Christ a dit de veiller. Nous veillons et nous apprenons à veiller. D'ailleurs, les sept repères prophétiques, entre autres de M. Dington, on a des brochures beaucoup là-dessus. Quels sont les signes des temps de la fin? L'Apocalypse enfin dévoilé. C'est des choses qu'on reprend, on revisite de temps en temps, on essaie de comprendre et c'est important. Mais dans le psaume 122, vous savez, Jésus-Christ a dit « Veillez et priez ». Mais prier, prier quoi? Ben, il y a une des choses que la Bible nous dit clairement sur quoi prier, concernant les temps de la fin. Psaume 122, il dit « Oui, oui, vous priez pour avoir la force de rester debout. » Mais psaume 122, regardez au verset 5. Dans le contexte, c'est un cantique de degré, c'est un des cantiques qui était chanté lors d'un des pèlerinages, des gens qui venaient pour aller à Jérusalem pour la fête. Psaume 122, c'est de David, verset 5. En parlant de Jérusalem, il dit, « Là sont les trônes pour la justice. » Remarquez le pluriel, « les trônes pour la justice. » Les trônes de la maison de David, est-ce que présentement les trônes sont là? C'est assez faible. Il n'y a pas grand trône à Jérusalem présentement. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Voici des choses qu'on peut demander. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » Alors, ici, nous avons une directive de prier pour la paix de Jérusalem. Oui, nous savons qu'il y aura des bouleversements. Mais vous savez que déjà, Dieu a son regard sur Jérusalem. Oui, il a prophétisé qu'une partie de la ville va tomber, mais pas toute la ville. Oui, il a prophétisé qu'il va y avoir un tremblement de terre, que 7000 personnes vont mourir, mais lesquels? De quel côté de la ville? Ça, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on prie. Parce que Dieu regarde en partie jusqu'à quel point son peuple spirituel, nous sommes en connexion spirituelle avec son peuple physique. Dieu regarde à ça. Parce que la première nation qui va être sauvée au retour de Christ physique, c'est Israël. Et s'est décidée comme ça. Et elle va se repentir parfaitement. OK? C'est marqué en passant dans les prophéties de Zacharie. Vous savez, on est à l'approche de la fête des acclamations, puis la fête des trompettes. Prions pour que Dieu nous attache par des liens d'amour spirituel à ce figuier que Jésus a fait refleurir. C'est lui qui a permis le retour de son peuple. Ce figuier, c'est son peuple du temps de la fin qui verra, donc ses prophéties de Zacharie 12 à Zacharie 14, s'accomplir pour lui. C'est un figuier fragile. Le peuple physique de Dieu est fragile, tout comme le peuple spirituel a ses fragilités. Et nous avons tous les deux besoin de tendre soin. Ainsi, nous serons plus près du lion de la tribu de Judas, et de ceux qui considèrent comme la prunelle de ses yeux, comme nous sommes déjà aussi la prunelle de ses yeux pour des raisons de complicité avec Jésus-Christ, des raisons d'intimité et des raisons d'amour qu'il nous donne, son amour, et entre autres son amour pour son peuple physique. Bonne préparation pour la fête des trompettes. Nous allons nous revoir ici, et c'est dans 2 jours. J'anticipe ce festin qu'on va avoir ensemble, préparatoire au grand festin.